Bonjour à toutes et tous. Vous avez vu de la lumière et vous êtes entrés, et comme vous avez bien fait. Le 106.8 est fait pour cela, vous accueillir, vous faire un brin de causette, vous parler d'en haut et d'en bas, et à l'occasion, de temps à autre, vous faire écouter un brin de musique. Et je tenterai de faire en sorte que cette musique vous soit bonne, bénéfique, éclairante. La musique, lorsqu'elle s'infiltre dans nos vies, peut être soit un divertissement, une pure affaire de plaisir, ou bien peut devenir facteur d'un enrichissement, d'un développement sans équivalent. Comme toutes les formes d'art n'usant pas de mots, sa force d'imprégnation est totale. On n'y bute pas sur les insuffisances et les impuissances du langage. Il serait vain, ici ou ailleurs, pour moi de tenter de vous énumérer les bienfaits et même le salut que je dois à la musique. Une vie de musique, c'est une grâce. Je parle ici de musique et non de carrière dans la musique, qui est tout autre chose dont je saurais trop quoi vous dire. Je vous parlerai ici de la vie dans la compagnie de la musique, sous sa grâce. Concernant cette musique, je peux avoir quelques certitudes pour ce qui me concerne, mais lorsque je me tourne vers les autres, je suis à peu de choses près, aussi démuni que l'est chacun et chacune d'entre nous. La musique nous améliore, elle nous grandit. Elle œuvre sur nous dans la chambre noire de la vie intérieure. Elle nous solidifie pour qu'au sortir, nous puissions nous rendre plus friables encore et nous exposer au changement qu'elle opérera en nous. Contrairement à une idée reçue, la musique n'isole pas, ne nous propulse pas dans un univers imaginaire qui serait alors un danger pour notre sens des réalités. Mais elle nous rend mille fois plus réactifs, plus réfléchis, ouverts, imaginatifs, souples. Elle démultiplie tous les sens, tout ce qui a rapport tant à la perception qu'à la projection de nous-mêmes. Lorsque je vois ce qu'on prend aujourd'hui pour la réalité augmentée et même pour l'être humain augmenté, j'y vois une grande pauvreté, un aveu d'échec, une paresse d'être et d'agir. La musique vous emmènera plus loin, plus fort, vers tellement plus grand que ça. Beaucoup de musiciennes et musiciens d'aujourd'hui parviennent encore, Dieu merci, à concilier les impératifs d'une carrière aux implications plus profondes de la musique. Artistes de toute sensibilité, vient toujours un moment où ils savent ouvrir une porte qui conduira vers un côté plus personnel, plus vrai, plus profond de ce qu'ils sont. Quelques exemples. Hélène Grimaud, dans son CD Water, œuvre consacrée à l'eau qui l'a amenée à un répertoire réimaginé avec des compositeurs qu'elle n'avait encore jamais abordés. Ou Hilary Hahn, prenant le risque bien réel de l'improvisation totale, d'un véridique lâcher-prise en compagnie du piano préparé de Hauschka. Ou bien Derek Grapper, jeune guitariste classique, tombé sous le charme de la musique de Cora de Toumani Diabaté et en tentant la transcription. Comme on transcrit les Goldberg de Bach, il s'est attaché à ces Mendé variations. Et nombre d'exemples encore. Il est une certaine façon d'aller vers ce que l'on est, de suivre son cœur, ses sentiments ou une intuition qui ne peut qu'être un progrès. Lorsque l'on a éliminé l'esprit de provocation, la vanité personnelle, et que l'on souhaite faire un pas sincère en direction de son auditoire, il faut s'avancer alors sans masque, sans phare, être moins au spectacle, moins à l'esquive. Comme vous avez pu le constater, je pense que la somme des choses que j'aime en musique fait une caravane assez bariolée, diverse et contrastée, contradictoire parfois. Le grand classique qui côtoie l'iconoclaste, le contemporain fraternise avec l'antédiluvien, le populaire fraye avec l'expérimental. Mis à part l'étroitesse d'esprit, toute chose en musique me paraît être possiblement digne du plus grand intérêt. Depuis longtemps déjà, je regarde la direction du jazz. Les déclencheurs ont été pour moi Django Reinhardt, puis Thelonious Monk. Il y a un grand nombre d'années, je me trouvais avec des amis aux arènes de Cimiez, sur les hauteurs de Nice. Nourriture cajun, soleil de plomb, et il faut bien dire quelques rafraîchissements bienvenus, et on avait l'esprit en éveil pour recueillir la manne qui descendait des diverses scènes où se produisaient cette année-là des gens comme George Adams, Don Pullen, Carmen McRae, quelle leçon de chant, mes amis, beaucoup d'autres, le big band de Lionel Hampton. Et j'ai eu le plaisir cette année d'assister à ce qui furent, je crois, les premiers pas de la famille Marsalis en Europe. Des jeunes gens pleins de fraîcheur, de joie de jouer et d'une énergie renversante. C'était vraiment quelque chose que se trouvait à quelques pas, face au pavillon des instruments de la famille Marsalis. Ils étaient à la fois d'un classicisme parfait et d'un souffle rageur. Leur jeu avait l'immense vertu de réunir entre elles des sensibilités qui, partout ailleurs, se seraient rejetées, refusées. Leur énergie et leur classe renversaient tout sur son passage. Ils étaient soudés entre eux jusqu'à ne faire qu'un. Je n'étais pourtant pas un inconditionnel des cuivres, mais j'aimais depuis toujours Clifford Brown, Miles Davis, J.J. Johnson, Johnny Hodges, John Coltrane. Ce jour-là, j'ai pris les Marsalis comme une entité, aux parties inséparables. Et puis, chemin faisant, nous avons pu mieux connaître les personnalités distinctes de cette extraordinaire famille dans laquelle amour de l'art et ouverture d'esprit vont de pair. Ces temps-ci, comme vous peut-être, j'ai écouté de la musique. Ma discothèque, bien sûr, mais aussi YouTube, dont je me sers comme d'une cabine d'écoute à direction du monde, pour écouter d'autres musiques qui me sont inconnues ou ne seraient pas, en théorie, celles que je serais censé aimer. Je n'aime rien tant que ces petits accidents de parcours ou ces vagabondages qui vous font tomber sur quelque chose qui vous surprend, puis parvient à piquer votre intérêt, savoir se laisser infléchir, se laisser convaincre en musique est une qualité. Ça n'a rien à voir avec le papillonnage ou la faiblesse d'esprit, c'est un sas de sécurité pour l'esprit, qui protège de la sécheresse d'âme. Et en déambulant sur la toile, qui croisais-je ? Tiens, tiens, Wynton Marsalis, qui entre-temps était devenu l'immense musicien qu'il a toujours été, mais aussi une figure importante de la Juilliard School. Et que devenait-il ces temps-ci ? Wynton Marsalis attaquait l'Everest, que dis-je, le K2 de la musique classique, et en tant que compositeur, s'il vous plaît. Alors sans doute avait-il écrit un concerto pour trompette et orchestre, je l'avais déjà entendu dans des programmes classiques. Première surprise, c'est pour le violon qu'était écrit ce concerto, doublé d'une suite, celle-là, pour le fiddle. Vous m'avez entendu prononcer ce mot, le fiddle, qui est le violon populaire, donc, celui de la musique irlandaise, de la musique old-time, du bluegrass, de la musique cajun. Et la suite s'intitulait « A Fiddle Dance Suite », référence donc directe à l'instrument populaire et à son attribution première, la danse. Danse qui a toujours eu partie liée à la musique classique. Suite instrumentale de Bach et autres lui doivent leur bulletin de naissance. Mais Marsalis indiquait une proximité plus directe avec les origines, n'indiquait pas un démarquage d'avec elles, mais une mise à jour de la source, une jouvence. Et à ce jeu-là, je savais que Wynton Marsalis était un seigneur, un maître absolu. Alors direction, la boutique du marchand de musique allait faire chauffer un peu la carte bancaire pour ce concerto pour violon et orchestre et cette Fiddle Dance Suite pour violon solo. L'orchestre ici est le Philadelphia Orchestra, celui d'Eugène Ormandie, placé ici sous la direction de Christian Macellarou, jeune chef roumain que nous connaissons en France. Je crois qu'il est l'actuel directeur de l'Orchestre de France. Mais arrêtons-nous un instant sur la violoniste soliste. Elle se nomme Nicola Benedetti, puisque dans les pays anglo-saxons, le prénom de Nicola est aussi prénom féminin. On l'orthographie alors sans le S final. Nicola Benedetti possède un jeu lumineux, plein de vivacité, d'allant. C'est un violon risque-tout, plein de flammes, mais qui n'omet rien des détails, des anfractuosités. Elle brille tant dans les lumières étincelantes que dans l'ombre ou la mi-ombre. Elle n'est pas d'un caractère unique, exclusif, et son attaque franche et l'extrême clarté de ce que l'on pourrait appeler son élocution contient bel et bien l'entièreté des caractères musicaux. Est-ce la consonance ou bien la tentation de la rime ? Mais à la première note que j'ai entendu jouer Nicola Benedetti, s'est allumé dans mon esprit un panneau lumineux, une sorte d'enseigne au néon qui portait le nom d'Antonio Vivaldi. Il ne m'a pas fallu chercher bien loin pour voir quelle brillante interprète elle fait du bad boy de la lagune. Mais pas d'erreur ici, Nicola Benedetti joue un contemporain. Elle se mesure à l'orchestre d'aujourd'hui et à une musique contemporaine américaine autant qu'il est possible de l'être. L'orchestre est donc d'une toute autre présence, d'une toute autre nature. Les siècles ont passé, l'Amérique est un continent musical de plein droit, avec ses figures, ses élans rythmiques, ses éclats de cuivre, ses cordes massives, ses mouvements amples, avec une sorte de sens de l'image en musique, sens de l'action, des sensations, qui évoquerait parfois une espèce de cinéma sonore. La musique américaine a souvent eu une certaine qualité cinématographique, voire ciné-panoramique. Et souvent, cela donne du grand art, comme avec John Adams, par exemple. Il y a eu tous les grands symphonistes américains pour forger une espèce de grain sonore, de corps musical, d'esprit américain en musique. La sensation de l'Amérique qui nous est transmise lorsque nous écoutons Copland, Barber, Antheil, Grand Steele, Price, Adams et aujourd'hui Marsalis. Le moins est de dire qu'ici, l'osmose est complète, parfaite, de la soliste à l'orchestre. Les qualités nécessaires à briller dans Vivaldi sont ici décisives. Le violon chante, il vibre, il nuance, il extrapole, il surprend, touche, s'écarte, revient, attise, exulte sans forcer un instant. Sa voix est toujours naturelle, proche, le son du violon est dans notre oreille. Il n'en décroche jamais, quel que soit le volume de l'orchestre. Constance sonore et permanence de la finesse du toucher qui sont parfois des écueils pour le jeune violoniste. Et Nicola Benedetti survole ici les choses d'impressionnante manière. Et la partition de l'orchestre est ici un défi pour le soliste. C'est l'orchestre américain tel qu'il fut préfiguré par Igor Stravinsky et Barber, celui de l'Appalachian Spring, de Copland, la machine infernale de George Antheil, la voûte céleste de John Adams, le ciné-panorama, musique grand écran, dont on dit que les cieux sont la seule limite. Et le compositeur Wynton Marsalis est très étonnant, très convaincant. L'harmonie se déverse avec luxuriance et un très grand sens du beau et de la plénitude. Sa phrase est subtile, articulée à plein ou suggérée avec ce qu'il faut d'estompe pour la rendre intrigante. Marsalis est de son siècle, pleinement. Sa musique le dit avec force et clarté, tout comme elle énonce la continuité. Elle ne recourt pas à la rupture, donc. En musique, ce dernier point est une clé. Toute musique se doit de trouver sa place, donc auparavant ce qui fera son équilibre et sa raison d'être dans le continuum temps. Seule valeur ayant cours en musique. La rupture y sera toujours, quoi que l'on fasse, un acte isolé, un fait divers, une péripétie. Je vous propose donc à présent de découvrir le troisième mouvement de ce concerto pour violon et orchestre de Wynton Marsalis par le Philadelphia Orchestra, emmené par Christian Masselaru. Le mouvement est intitulé « Blues », violon soliste Nicola Benedetti. Thank you.
Thank you.
Passons à présent à cette fameuse Fiddle Dance Suite pour le violon solo. Nous sommes ici, a priori, dans un univers tout autre et pourtant. Le violon noble, classique, que nous connaissons, s'est élaboré partant de l'instrument populaire. Dans Vivaldi, il subsiste encore énormément de traits et de figures du violon populaire. Ici, Wynton Marsalis a travaillé à partir des données du violon irlandais et écossais essentiellement. La gigue, le hornpipe, le strathspey. Le strathspey, c'est une variante écossaise du reel irlandais, mais plus lent et à mon sens plus musical encore, permettant plus d'expressivité. Tout mouvement de danse auquel Marsalis ajoute le breakdown, notion spécifiquement bluegrass, indiquant un morceau rapide joué, comme le disaient les fiddlers américains, sur un tempo sans briser le cou, breakneck tempo. Et il faut bien voir qu'ici, nous sommes tout autant dans l'essence même de la musique soliste pour le violon, dans ce qui fut la chair et l'esprit des 24 caprices de Paganini, par exemple, même si la base est tout autre. Contrairement à ce qui se fait trop souvent, Wynton Marsalis ne réécrit pas la tradition. Il ne la cite même pas. Il ne s'appuie pas sur elle. Le ferment de la tradition s'exprime ici par le coup d'archet, par les attaques si particulières du strathspey ou du reel, par les liaisons détachées de la gigue ou le type d'énergie propre au hornpipe. Et ce qui est particulièrement admirable ici, c'est que Wynton Marsalis y compose authentiquement. Il y fait œuvre entière et personnelle, tout autant que neuve. Alors où se tient le rapport à la tradition? Eh bien tout simplement, non seulement dans le fait que Marsalis sait écrire, composer dans le plein respect du corpus qu'il défend, ici donc une certaine forme de tradition, mais encore dans le fait que, à l'image par exemple du grand et prestigieux maître de fiddle écossais qu'était James Scott Skinner, il en écrit et en conçoit le jeu d'archet dans ses moindres détails et fait tout pareillement pour le jeu de main gauche, l'articulation de la phrase et les finesses de doigté. Marsalis procède donc d'une tradition vivante et non statique. Comme je vous le disais, il n'est pas musicien de la rupture mais du progrès. Il prend acte du monde existant et en fait une force progressiste. Alors je vous propose à présent d'écouter non pas l'intégralité de cette Fiddle Suite, mais quatre de ses mouvements. Je vous laisse donc au bon soin du docteur Marsalis et de Nicola Benedetti au violon. Belle écoute. Thank you.
Thank you. Thank you.
du renouveau d'intérêt pour la musique traditionnelle aux États-Unis, on peut trouver plusieurs explications dans l'histoire récente de ce pays, dans ses traumatismes, mais essentiellement dans le cœur même de ce qui fait la contradiction de l'Amérique, elle qui personnifie le progrès, progrès incessant et mené à vive allure. Elle n'a pas pris le temps d'écrire son histoire. L'histoire, c'est bon pour la vieille Europe, c'est bon pour l'Asie, l'Afrique, pour l'Inde, bref, c'est bon pour les autres. L'Amérique était trop occupée à être jeune. Or, elle ne l'est plus aujourd'hui. Et cette résurgence de la mémoire et cette prise en compte de tout ce qui fait mémoire en musique est sans doute un début de l'écriture de l'histoire. D'autres compositeurs, mais surtout Samuel Barber et Sam Coleridge Taylor, avaient tenté d'incorporer des éléments de musique et de chant traditionnels à la musique symphonique. Mais aucun n'avait fait ce que fait Wynton Marsalis ici, prendre la thématique et le jeu instrumental traditionnel comme matériau de référence, comme unité centrale d'une écriture contemporaine. Personne encore n'avait parié sur l'entière validité du principe, de l'instrumentarium et des techniques instrumentales propres de la musique traditionnelle, dont on citait pourtant parfois des bribes de mélodie, des caractères, des atmosphères. En mettant à contribution l'histoire dans ce qu'elle a de plus direct et vivant, Wynton Marsalis fait de cette histoire œuvre civilisatrice, unificatrice. Marsalis, ici, utilise un matériau musical remontant à la fin du XVIIIe siècle, Le violon, ou fiddle, est peut-être le plus ancien des instruments américains, avec le banjo. Américain ou assimilé par l'Amérique. Nuance primordiale, l'Amérique est un creuset, un point de rencontre de tous les continents. Sa culture est un patchwork, un kilt, ceci ne signifiant pas qu'elle est sans matière, sans racines, sans attache, mais au contraire, que ses racines et attaches sont d'autant plus fortes qu'elles sont multiples et éloignées. L'immense majorité des banjoïstes américains, par exemple, d'aujourd'hui, a assimilé que cet instrument qu'ils aiment tant et qui, pour eux, chante l'Amérique, a été conçu, pensé et réalisé pleinement en Afrique. Une Amérique refermée sur elle-même est une aberration et un reniement. Personne n'a envie de voir ce grand pays s'humilier dans des conflits d'un autre âge. Il est arrivé à Wynton Marsalis de s'exprimer sur son pays, ses conflits, son évolution, et il le fait toujours avec infiniment de sagesse, de discernement, d'intelligence, avec le souci de l'histoire et du sens de l'histoire, le mot « sens » désignant ici tant la direction que la signification. Wynton Marsalis est un être extrêmement réfléchi, il n'agit ni ne pense de manière impulsive. Et puis la musique, c'est la constante étude. Et qui y voit infirmer ce à quoi il croyait, doit s'y trouver heureux. La musique est une avancée, un périple dans un paysage constamment changeant. Un esprit trop lourdement statique, trop systématiquement déductif, trop persuadé de lui-même et de ce en quoi il croit, devra s'attendre à quelques belles secousses. Pour poursuivre son étoile de musique, pour créer son œuvre, Wynton Marsalis a effectué de longs cheminements, croisant l'histoire, la philosophie, l'ethnologie, l'étude des mœurs, l'histoire personnelle, créant ainsi des passerelles entre des styles, des époques, des caractères, des continents, des types de jeux parfois inattendus, inédits, comme c'est le cas ici. Aaron Copland, à ma connaissance, était alors le seul compositeur à avoir eu envers le fiddle et la musique de fiddle une attitude respectueuse, à le considérer comme valeur musicale, nous dirons, légitime, quoique ce mot de légitime est un je ne sais quoi d'équivoque dans le regard. Wynton Marsalis est ici sur un tout autre point de vue. Il fait resplendir l'instrument, il le magnifie. L'élocution, le timbre, le phrasé, le travail d'archer et le si riche travail de main gauche, la franchise de cet instrument, entreprenant, rude et tendre à la fois, si tyranniquement complexe, et le devenant plus encore lorsqu'il s'agit, comme dans le deuxième mouvement de la suite, de jouer ce que l'on nomme un slow air, musique lente, solennelle et prenante. S'il est raisonnablement complexe de jouer les notes et de leur insuffler du caractère, c'est une toute autre affaire que de savoir atteindre ce point précis où ce qui va sortir de l'instrument sera exactement et avec le degré nécessaire d'intériorité un véritable slow air, un air lent. Nicola Benedetti semble tout à fait conscient de ces implications-là dans le jeu. Sans doute ces ascendances écossaises y sont-elles pour beaucoup. L'Écosse a une magnifique tradition de chants solitaires. À la cornemuse, par exemple, le pibroch, qui sont des remémorations, des éloges à des disparus. Je vous ferai écouter tout cela un jour. Il me reste encore tellement de choses à faire. Nicola Benedetti donne de bout en bout de cette Fiddle Dance Suite une interprétation sans faille. Il faut en souligner le scrupule total. À aucun moment on a le sentiment d'un virtuose classique Saint Jean le Populaire. C'est la toute première fois que j'entends l'ensemble des traits du fiddle joués à la perfection, dans leur naturel, sublimé pleinement par toute l'expérience et la belle sensibilité de cette grande soliste. Elle a ici traité du jeu de fiddle comme d'une école de musique en soi, comme il y a l'école de violon italien, du violon russe, et c'est la première fois que l'on accorde à ce type d'instrument cette crédibilité. Parmi les mille aspects, l'œuvre de Wynton Marsalis fait se joindre l'univers classique au populaire, le classique au jazz, le jazz à son histoire et l'histoire au contemporain. Il y a toujours au cœur de sa musique la notion de mouvement, de destin croisé, d'univers et de cultures destinées à se joindre les unes aux autres, l'idée d'une complémentarité implicite. Il se sert de l'histoire comme d'une somme d'éléments vivants, réels, et fait circuler l'énergie de l'histoire au présent et inversement. Et c'est ce qui fait que sa musique, si riche d'histoire, est si contemporaine et nous agrippe avec une vigueur digne souvent du Stravinsky du Sacre, même si Marsalis, malgré tout ce que je viens de vous dire, me paraît avoir un ton plus intériorisé. Il est d'une grande spiritualité souvent. La musique de Wynton Marsalis, si elle a beaucoup de luxuriance et d'amplitude de mouvement, c'est aussi nous pousser vers la réflexion, vers le monde intérieur, vers la complexité de nos sentiments, sensations, et elle est tout autant riche d'intériorité. Alors si le cœur vous en dit, courez sur YouTube, Deezer ou que sais-je encore, pour découvrir l'œuvre immense et multiple du grand Wynton Marsalis, vous verrez quel voyage peut être sa musique. Faites-en de même au passage avec Nicola Benedetti. Et au sortir, si vous allez acheter ce CD du concerto pour violon et orchestre et cette Fiddle Dance Suite, dont les références seront sur la page de l'émission, vous me ferez une grande joie. Je suis déjà impatient de vous retrouver dans 15 jours au 106.8. Le meilleur pour vous. À très bientôt. Au revoir.